Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 $ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
Propulsé par énergie.
On a day that we came together to celebrate freedom, we're instead mourning the tragic loss of life.
C'est la première fois qu'on voit autant de ménages sans logis au lendemain du 1er juillet.
Bonne fin de journée, tout le monde. Ce soir, au film, on va faire le point sur le dossier de l'arsenic dans l'air à Rouyn-Noranda, où va se rendre d'ailleurs le directeur de la Santé publique du Québec un peu plus tard cette semaine. Il y a des médecins qui ont commencé à mettre de la pression, entre autres, sur le gouvernement. On en parle dans un moment. Mais d'abord, on est le lundi 4 juillet. 4 juillet, bien, c'est supposé être un jour de fête aux États-Unis, celle de l'indépendance. Mais aujourd'hui, le jour de célébration a tourné au drame. Encore une fusillade, oui, malheureusement, encore. Mais cette fois, c'était en plein défilé du 4 juillet. Ça s'est passé en banlieue de Chicago. J'en parle avec mon collègue Étienne Fortin-Gauthier. Salut, Étienne.
Salut, Michel.
Là, on parle quand même de plusieurs morts. Moins de 6 personnes sont mortes sous les balles d'un tireur.
Absolument. Pour l'instant, bilan de 6 décès et des dizaines de blessés, un peu moins d'une trentaine. C'est le dernier bilan qui a été fait il y a quelques minutes en banlieue de Chicago. Ça s'est passé donc dans une banlieue qui se nomme Island Park. Il y avait un défilé, des milliers de spectateurs qui étaient présents là-bas et des coups de feu qui retentissent. On imagine la scène de panique. Il y a d'ailleurs plusieurs images, notamment des familles qui courent avec leur bébé pour tenter de trouver un endroit où se réfugier. Des tirs qui ont été tirés en hauteur à partir d'un immeuble. On a d'ailleurs retrouvé une échelle. Les policiers ont révélé ça il y a quelques instants. Et évidemment, bien, la mairesse là, de ce secteur-là, Island Park, qui dit que c'est la désolation, alors que c'est une journée où on devait se retrouver, tenter justement de se rallier malgré les divisions politiques. On peut l'entendre.
Our community was terrorized by an act of violence that has shaken us to our core. Our hearts go out to the families of the victims during this devastating time. On a day that we came together to celebrate community and freedom, we're instead mourning the loss, the tragic loss of life, and struggling with the terror that was brought upon us.
Bon, et Étienne, la chasse à l'homme là, pour retrouver ce suspect est toujours en cours.
Oui, suspect de 18 à 20 ans, n'a pas beaucoup d'informations, pas d'images de lui, pas de photos. Il y a une arme qui a été retrouvée. La police ne veut pas dire de quel type d'arme, mais dit que c'est un fort calibre. Et on ne sait pas, est-ce que c'est un acte terroriste? Ce qu'on sait par contre, ce que la police dit, c'est que c'était vraiment un acte intentionnel et que les gens ont été tirés au hasard. Le FBI aide présentement à l'enquête et on se demande si le suspect a quitté ce secteur-là de Chicago ou encore qu'il a quitté Chicago purement et simplement. Évidemment, le fait qu'il ait tiré d'un toit, ça fait penser à cette autre fusillade qui avait eu lieu à Las Vegas. Dans ce temps-là, c'était en 2017, il y avait eu 61 morts.
Bon, et tout le flou entourant cette attaque, un peu les motivations de cette attaque, bien, ça laisse planer vraiment un doute sur l'ensemble des célébrations prévues ailleurs aux États-Unis.
Bien, absolument. Il y a des policiers en alerte un peu partout. Ce soir, il y a des spectacles, il y a des feux d'artifice prévus dans certaines villes. Dans le cas de Chicago, on a annulé purement et simplement les feux d'artifice. On ne voulait pas prendre de risque avec ce suspect qui est en fuite. Mais on entend vraiment beaucoup aujourd'hui que c'est un peu à l'image de ce que vivent les États-Unis dans les dernières semaines avec des fusillades. C'est la 308e fusillade de tuerie de masse de l'année aux États-Unis. 308e, Michel. Donc, ça frappe l'imaginaire. Et dans le cas de Chicago, bien, il y a 800 meurtres par année, alors que chez nous, pour une ville à peu près équivalente, un peu plus petite, on est à 25. Mais donc, on voit, c'est ça, une fête sanglante, ce 4 juillet sanglant.
Ouais. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Michel. Bon, dossier de l'arsenic dans l'air à Rouyn-Noranda. Bien, il y a une cinquantaine de médecins de la région qui réclament, dans une lettre ouverte au premier ministre Legault, que les émissions polluantes de la fonderie Horn soient réduites à des normes plus sécuritaires. Sortie qui fait suite à un rapport liant ces émissions à l'espérance de vie en plus faible à Rouyn-Noranda et les nombreux cas de cancer du poumon et des retards de croissance chez les tout-petits. D'ailleurs, le docteur Boileau va se rendre à Rouyn cette semaine, je le disais en ouverture d'émission. La députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien, est avec nous. Bonsoir, Mme Lessard-Terrien.
Bonsoir.
On s'en est parlé récemment, c'est un dossier que vous portez depuis des années. Dites-nous, essentiellement, ce que ces médecins demandent, c'est que la fonderie soit assujettie aux mêmes normes de pollution que les autres industries, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, on saura que la norme au Québec, c'est 3 nanogrammes. Et en ce moment, la fonderie a le droit d'émettre 33 fois la norme du Québec dans le ciel de Rouyn-Noranda. C'est pas compliqué. Le 98 % de l'arsenic qui est dans l'air au Québec se retrouve dans le ciel de Rouyn-Noranda. Hein? Vous l'avez dit, les conséquences sur la santé, elles sont majeures. La réduction de l'espérance de vie dans le quartier Notre-Dame de 5 ans par rapport au reste du Québec, nos bébés qui naissent avec des trop petits poids, les maladies pulmonaires qui sont surreprésentées, le cancer du poumon, c'est vraiment problématique.
Pourquoi on permet à la fonderie Horn d'émettre jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube?
Bien, essentiellement parce que la fonderie, elle existe depuis 1927. Elle était là, elle était en place avant que la réglementation environnementale soit mise de l'avant. Puis pendant des décennies, pour les gouvernements qui se sont succédés, bien, l'économie a toujours primé sur la santé environnementale ou même parfois la santé des gens. Et là, on récolte un peu les fruits de ce laxisme-là des dernières décennies.
Bon, ces médecins soulèvent aussi l'impact économique majeur d'une augmentation de cancers et de maladies pour la région. Et l'argument économique vous a déjà valu en fait des reproches de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda qui trouvait que vous aviez peut-être un discours trop alarmiste et négatif. La Chambre qui reconnaît maintenant que vitalité économique ne peut pas se faire au détriment de la santé, c'est un appui important en quelque sorte. Avez-vous l'impression que vos efforts ont porté fruit?
Oui, absolument. Si en 2019, on avait parfois l'impression de prêcher un peu dans le désert, là, je vous dirais que depuis quelques mois, on sent que le vent a tourné à Rouyn-Noranda. Il y a un consensus comme jamais de la part de tous les acteurs du milieu. Oui, la Chambre de commerce, la Ville de Rouyn-Noranda, le conseil d'administration du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, les médecins, les groupes citoyens, les groupes environnementaux. La bataille de l'opinion publique, Glencore l'a perdue. Et en ce moment, les seuls absents sur ce dossier-là dans la région, c'est le ministre régional, c'est le gouvernement du Québec, le gouvernement de la coalition Avenir Québec, qui est totalement encore muet sur cette question.
Mais il y a le directeur national de la santé publique, Dr. Luc Boileau, qui va se rendre demain, mercredi également. Qu'est-ce que vous savez de cette visite-là et quelles sont vos attentes?
Bien, en fait, j'ai l'impression que la CAQ cherche à gagner du temps en envoyant un bouc émissaire parce qu'au bout du compte, les solutions, elles ne relèvent pas de la santé publique nationale, elles relèvent du gouvernement du Québec. Maintenant, je demeure contente d'accueillir Dr. Boileau dans la région et si c'est une voix qui peut s'additionner à celles qui sont déjà présentes sur le terrain pour réclamer que la norme québécoise s'applique aussi du côté de Rouyn-Noranda, moi, c'est mon objectif. J'espère bien croiser Dr. Boileau lors de son passage à Rouyn-Noranda et c'est la mission que je me donne, c'est que ce soit une voix qui s'additionne au reste des acteurs régionaux.
Alors, je le rappelle, visite demain, point de presse avec les journalistes mercredi. Je vous souhaite de réussir à avoir la discussion que vous voulez avec M. Boileau. On s'en reparle certainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci, ça m'a fait grand plaisir.
Au revoir.
Soirée.
Le chaos dans les aéroports persiste alors que la haute saison des voyages ne fait que commencer. Durant le long week-end de la fête du Canada, le Canada aurait été parmi les pays les plus touchés par les retards. Ça, c'est selon la firme spécialisée FlightAware. C'est cependant l'aéroport chinois de Guangzhou qui a eu le plus grand nombre de retards. Les aéroports Pearson à Toronto et Trudeau à Montréal se sont classés au deuxième et sixième rang mondial. Du côté des lignes aériennes, Air Canada s'est classé au premier rang pour les retards, alors que plus de 700 vols ont été affectés samedi et dimanche seulement. Quelques jours après la journée du déménagement au Québec, la situation est toujours aussi critique pour des ménages du Grand Montréal comme ailleurs, un peu partout au Québec. Il y a des organismes communautaires qui continuent à recevoir des appels de demande pour des logis. D'ailleurs, à la suite du 1er juillet, bien, ce sont environ 600 ménages québécois qui, en ce moment, se cherchent un bail. On en parle avec Sabrina Rivet. Salut, Sabrina.
Salut Michel.
De ce nombre, il y a toujours plus d'une centaine de ménages sans logement à Montréal.
Oui, ce sont exactement 118 ménages qui se retrouvent donc sans logis du côté de Montréal à la suite du 1er juillet. Et c'est évidemment dans la métropole où on retrouve le plus de ménages qui se retrouvent sans habitation. Et justement, d'ailleurs, on peut peut-être aller regarder un tableau pour comparer avec d'autres villes ailleurs au Québec. Notamment, on peut aller regarder du côté de Laval. On est à 19 ménages qui sont sans logis. À Grimbay, on est à 20. Joliette, on est à 10. Puis ce qu'on me disait aujourd'hui, c'est que c'est une des premières fois où il y a le plus de gens sans logis aussi à l'extérieur de la grande ville de Montréal. Souvent, c'était dans les plus grands centres urbains. Et là, on voit que dans des plus petites municipalités, cette problématique-là, elle existe. Et là, la grande difficulté est de loger temporairement ces ménages. Parce qu'à Montréal, on parle d'une trentaine de ménages qui sont hébergés par la ville. Bien, le reste, ils sont dans des situations précaires, habitent chez des amis, des proches. Ça demeure quand même des endroits qui sont temporaires. Et ce qui est compliqué actuellement, ce n'est pas qu'il manque de logements abordables, ce sont les prix qui ne sont pas abordables. Je sais, on en parle quand même assez régulièrement. D'ailleurs, tout de suite là-dessus, on peut aller écouter une porte-parole du Frappru.
Si on construit seulement des logements chers, bien, on ne règle pas le problème pour la moyenne des ménages locataires montréalais dont le revenu est de moins de 40 000 $ faut-il le rappeler. Et comme la CMM le notait récemment dans son portrait de l'habitation, c'est 7 % des logements construits dans les dernières années à Montréal qui sont du logement social ou communautaire. Alors, vous voyez, on ne fait pas le poids, là.
Bon, est-ce qu'on sait ça va prendre combien de temps en moyenne là, pour essayer de trouver un nouveau toit, ces gens-là?
C'est quand même la grande question qu'on se pose. Comme on disait, c'est qu'au cours des dernières années, ça allait quand même assez rapidement, mais là, c'est de plus en plus long. On peut aller réécouter la porte-parole du Frappru.
Au début des années 2000, par exemple, ou au début de la décennie, c'était plutôt en jours qu'on comptait ça. Ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est que ça prend des semaines. Et vraiment, ça traduit vraiment l'ampleur du problème à Montréal. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Les gens ne les trouvent pas, les logements qu'ils sont capables de payer.
Et qui dit déménagement dit également des déchets en qui se retrouvent à l'extérieur. Donc, si jamais vous avez des encombrants, comme par exemple un divan ou un four, bien, vous pouvez toujours aller les porter à l'éco-centre. Ouais. Il y a un système aussi de ramassage si jamais vous avez gros objets comme ça à donner.
On laisse pas ça dans la rue. Merci, Sabrina.
Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 $ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
Propulsé par énergie.
Alors que tout coûte plus cher, à commencer par l'épicerie, vous l'avez remarqué, hein? Bien, on apprend qu'il y a des producteurs de lait du Québec qui ont jeté pas moins de 2 millions de litres de lait au cours des derniers jours. En fait, c'est le conflit de travail à la fromagerie Agropure de Granby qui est au cœur de ce gaspillage monstre, comme nous l'explique mon collègue Guillaume Côtenoir-Lacroix.
On a jeté environ une centaine de mille litres depuis le déclenchement de cette grève-là. Puis on ne sait pas à quoi s'en tenir pour la suite.
Les producteurs de lait de l'Estrie sont déçus et frustrés. Ils ont beaucoup de difficultés à digérer le fait d'avoir dû jeter des milliers et des milliers de litres de lait depuis la semaine dernière.
C'est jamais plaisant de voir le résultat de ton travail, du travail de ces vaches-là aller dans la fosse à fumier. T'sais, on veut pas... quand on sait qu'il y a du monde qui meurent de faim chaque jour dans le monde, puis nous autres, on jette la matière première. Tu sais, c'est décevant, c'est décevant.
On n'est pas heureux de ça. Par contre, nous, comme producteurs de lait, on gère la production puis on gère le transport. Fait que si on est tributaire des usines. Quand il y a un bris dans une usine, bien, on essaie de le référer à une autre usine. Par contre, on s'est adonné à une fin de semaine de vacances. Donc, les autres usines, probablement, qui étaient un peu toutes à personnel réduit. Donc, on n'a pas été capable de tout le transférer à d'autres usines.
Ce qui désole les agriculteurs du Québec et de l'Estrie, c'est qu'ils ont appris le jour même du déclenchement de la grève que personne viendrait chercher le lait ce jour-là, ce qui laissait que très peu d'autres options pour éviter les pertes.
Ça te laisse un court espace entre la traite du matin et puis la traite du midi. Tu sais, c'est pas... Puis les alternatives sont pas vraiment nombreuses pour le lait qu'on jette, t'sais, de trouver preneur vite, vite de même. T'sais, on n'a pas... c'est pas pasteurisé, puis c'est pas transformé non plus. Fait, à part remplir nos pots pour consommation personnelle, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire.
On a donné dans des banques alimentaires. Il y a des usines qui ont 22 000 litres une journée. Il y a des usines qui ont été capables de le transformer puis pour l'aller dans des banques alimentaires. Nous, on fournit la matière première et l'usine, elle le transforme pour rien. Par contre, il faut le transformer. C'est ça le défi, c'est la transformation.
C'est qui paye pour ça, en fait? C'est qui va payer pour le lait qui est jeté?
Bien, je pense que ça va être collectivement tous les producteurs. Dans le fond, ça va jouer sur le prix, j'imagine.
Tous les producteurs de la province, ils vont l'absorber à en gagne.
Mais aujourd'hui, lundi, ils sont venus le chercher.
Oui, hier, puis aujourd'hui, à date, tout va bien. Ouais. Fait que j'imagine qu'ils ont réussi à le placer ailleurs. On continue notre travail, puis on va espérer un bon dénouement. Je suis pas vraiment au courant de leur situation. C'est juste que, tu sais, peut-être de venir passer une couple de jours à la ferme, ils verraient peut-être qu'ils sont bien. Là.
Après l'invalidation de l'arrêt Roe contre Wade aux États-Unis, il y a quelques 300 médecins, majoritairement des femmes, qui ont envoyé une lettre au Collège des médecins du Québec pour rendre l'avortement encore plus accessible chez nous, au Québec. On en parle avec une des signataires de cette lettre que vous voyez, Dr. Geneviève Bois, elle est médecin de famille au Nunavik, qui pratique elle-même des avortements. Bonsoir, Dr. Bois.
Bonsoir.
Dites-moi, dans cette lettre, vos collègues et vous demandez au Collège des médecins d'abolir des procédures obligatoires comme l'échographie pour rendre la pilule abortive plus accessible. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça va changer?
Exactement. Donc, il y a trois grandes demandes qui sont dans la lettre: d'abolir l'échographie de datation obligatoire, mais aussi d'abolir les lignes directrices spécifiques au Québec qu'on a, et finalement, la formation obligatoire qui est demandée aux médecins qui veulent prescrire la pilule abortive. Donc, il y a ces trois restrictions-là qui sont uniques là, au Québec, dans les juridictions similaires, puis dans le restant du Canada, qui viennent mettre des bâtons là, dans les roues parce qu'il faut... S'il y a moins de prescripteurs, bien, il y a plus de délais, il y a moins de points de service où on peut aller, moins de médecins qui peuvent donner cette médication-là. Puis s'il faut faire un test de plus, bien évidemment, ça peut complexifier les rendez-vous ou créer des délais là, qui ne sont pas nécessaires. Donc, on voit dans d'autres endroits, quand on a laissé tomber ces restrictions-là, la sécurité est restée la même, mais on a eu plus de médecins prescripteurs puis moins de délais là, pour avoir un avortement.
Oui, et au Québec, on a même l'expérience des derniers mois parce qu'avec la pandémie, j'ai bien compris, on a enlevé, entre autres, l'échographie obligatoire. Et ça a permis donc d'améliorer l'accessibilité. Pourquoi le Québec est la seule province à imposer des mesures comme celle-là?
Je ne suis pas certaine pourquoi le Québec est la seule province à avoir ces mesures-là, puis je pense que ça serait temps de les abandonner. Pendant la pandémie, effectivement, il y a eu un avis comme quoi on pouvait outrepasser là, l'échographie obligatoire dans certaines circonstances. Je ne sais pas si l'avis était pas assez clair ou pas assez solide pour que les médecins se sentent épaulés, mais moi, je n'ai pas vu là, beaucoup de médecins passer au-delà de l'échographie à cause de ça, donc peut-être qu'il faut être un peu plus clair dans les restrictions qui existent et qui n'existent pas.
En terminant, de son côté, le Collège des médecins semble d'avis que l'assouplissement annoncé en contexte de pandémie dont je parlais devrait être pérennisé et dit vouloir officialiser son positionnement face à cette pilule d'ici la fin de l'été. Est-ce que vous êtes confiante que ces mesures soient abolies définitivement?
Mais pour nous, ce n'est pas suffisant de simplement pérenniser leur position pendant la pandémie sur l'échographie. La formation obligatoire puis les lignes directrices spécifiques au Québec demeurent un problème. Tant qu'il y a cette formation obligatoire-là, il n'y aura pas plus de prescripteurs. Et puis l'échographie, la position pendant la pandémie était de toute évidence pas assez claire là, pour que les médecins aillent au-delà de ça. Donc on pense qu'il faut aller plus loin. On espère que ça va venir rapidement. Mmh.
Merci beaucoup, Dr. Bois, d'avoir été avec nous. Bien sûr, on va suivre le dossier. On nous dit du côté du Collège des médecins à la fin de l'été. Merci beaucoup. La guerre en Ukraine dure depuis 4 mois maintenant et les morts continuent de s'accumuler. Il y a un homme d'origine russe qui habite au Québec depuis plus de 20 ans qui a décidé d'afficher ses couleurs, poser des gestes concrets pour contrer la colère envers sa mère patrie et son sentiment d'impuissance. Avec sa fille, bien, il amène des enfants ukrainiens réfugiés au Québec s'amuser aux eaux à bord de son bus de Noël. Vous allez voir, Camille Lorrain Desjardins est allée les rencontrer à Vaudreuil-Dorion.
The children, they cannot lie. If they cry, that means something happened. If they smile, that means something happened good. So we just want to see as many smiles as possible.
Hello, everybody. My name is Anna, and we are here today at the Zoo Granby with the Santa's bus.
Normalement, l'autobus y opère du mois de novembre jusqu'à Noël. Puis on fait des spectacles de Noël. Récemment, avec la situation de la guerre avec l'Ukraine, ben on a décidé d'utiliser justement cet autobus pour pouvoir transporter ou aider à des enfants, les enfants ukrainiens réfugiés, faire d'autres activités.
When the war just started, I was completely impacted by the situation because I born in Russia. My daughter Anna, she born in Russia as well, but she was really young when we moved, and we really feel pain, and we really feel sorry and guilty for what's going on now. I'm feeling I need to do something. To transfer, yes, we did transfer some monies, but really want to help in personal. And the magic of Christmas supposed to be everywhere in each heart. Final picture in front of the bus. They don't expect snow. The bus starts snowing. That was the magic coming. We decide to go to the Granby Zoo just to bring kids, because some children, 7 years old, walk to the through to the dead bodies. That's not normal.
Une fois qu'ils sont dans l'autobus, tu ressens comme une énergie de joie. Tu essaies de comprendre de où ils viennent, comment ils sont venus ici, puis des fois, ils nous parlent.
Puis est-ce que ça a été difficile au début, le contact, sachant que vous étiez russe? Est-ce qu'il y avait un malaise ou...?
No, not at all. When I introduce ourselves, that's what I'm starting from. Yes, we are Russian. Yes, we are born in Moscow. And yes, we are against the war.
Vous avez encore de la famille en Russie?
Beaucoup de famille.
My mom, she don't want to even talk about that. She's scared. You cannot say in Russia, you cannot say it is a war. You can get fined or even the prison or jailed.
But you're not scared?
For myself over here, no. Absolutely not. I scare for them. I wish to go as many times as possible to bring the happens to the children, but we cannot do it all the time from our pocket. That's the problem.
Puis je trouve qu'on fait quelque chose de pas mal différent. Il y a des gens qui donnent de la nourriture, qui donnent des vêtements, mais nous on donne un voyage.
À l'approche du repêchage de l'ALNH qui aura lieu dans 3 jours à Montréal, bien, il y a le Canadien de Montréal qui a toujours 3 candidats dans sa mire. Le choix se fera entre les attaquants Shane Wright, Slakowski et Logan Cooley. Le directeur général de l'équipe a rencontré les médias aujourd'hui pour parler de sa stratégie, alors que le Canadien aura le premier choix à ce repêchage qui commence jeudi.
Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 $ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
Propulsé par énergie.
Bonsoir, Étienne.
Bonjour, Michel.
On parlait tout à l'heure, en début d'émission, de cette fusillade du côté de Chicago qui a fait 6 morts. Oui. Bien, il y a le président Biden qui s'est exprimé.
Oui, absolument. Joe Biden, qui vient de prendre la parole, là, se dit choqué par les événements. Évidemment, ça marque là, ce 4 juillet-là. Mm-hmm. Il dit qu'il surveille la situation de très près alors que la chasse à l'homme se poursuit. Ce soir, on va suivre les derniers développements dans cette histoire-là qui a fait aussi des dizaines de blessés. Puis on reçoit l'expert des États-Unis, Guillaume Lavoie, sur un 4 juillet qui est teinté par cet événement-là, mais aussi une division politique avec ces questions sur l'avortement, notamment.
Bon, on change complètement de registre, mais on reste à l'international. Le pape qui nie les rumeurs de sa démission, parce que les rumeurs courent pas mal. Hein?
Oui, parce qu'on a vu son état de santé. Il a annulé plusieurs de ses activités dans les derniers mois. Donc, mais aujourd'hui, ben, il y a eu un entretien publié où on dit qu'il va bien faire les voyages qui sont prévus cet été. Il veut notamment se rendre à Kiev,
ben
à Moscou,
oui, hein?
Et même au Canada, on le sait, fin juillet. Donc, pour l'instant, tout est en ordre et il reste en place.
Il y en a qui vont y croire quand ils vont le voir ici, les deux pieds au Canada. Et en terminant, tu vas revenir sur le dossier de la pollution à l'arsenic, Carmen Noranda.
Collaboratrice, la docteure Claudel Pétrin-Desrosiers à 22h.
22h, on regarde ça. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce lundi 4 juillet. On se retrouve demain, dès 17h30.